France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Le poète, romancier et essayiste Marcelin Plesnay est l'auteur d'une œuvre impressionnante. Il fut également responsable de la rédaction de la revue Telle Quelle, avant de l'être aujourd'hui de la revue L'Infini. Alain Weinstein avait créé une émission intitulée « Devine qui vient dîner ce soir ». En 1981, cette belle formule radiophonique nous avait permis de prendre un contact joyeux et vivant avec Marcelin Plesnay et certains de ses livres.
Vous pouvez reprendre un peu de langouste, là. Elle est très bonne, hein, Bruno. Tu me passes le... Tu me passes le rince-doigt, s'il te plaît.
Il n'y a plus assez de citron.
Je déteste la langouste.
Ah, l'antenne. Bon. Ah, d'accord, on commence. Bonsoir. Devine qui vient dîner, donc, ce soir, chez Marcelin Plesnay. Mais un dîner qui commence par une parenthèse d'angoisse. L'angoisse que connaissent bien les maîtres de maison. Vous savez, quand l'invité se trompe de date, alors il y a deux cas de figure. Il vient quand on n'attendait pas, ou il ne vient pas quand on l'attendait. Et c'est la grande première qui nous arrive ce soir dans cette émission, car un malentendu sur le calendrier fait que Claude Royer-Journoux admire à Antibes les travaux récents de Lars Fredriksson. Et du coup, je suis seul chez Marcelin Plesnay, avec l'obligation sympathique de mettre les bouchées doubles. Marcelin Plesnay, évidemment, tout le monde connaît, je ne vais donc pas le présenter. C'est un poète qui représente assez largement ce qu'on appelle l'avant-garde, ne serait-ce que parce que ses livres de poésie ont tous été publiés dans la collection Telle Quelle. Ces livres, je les rappelle, ils sont au nombre de 5. Il y a eu Provisoirement des nègres en 1962, Paysage en deux, en 63, Comme, en 65, Stance, en 73, et enfin, Rime, qui vient tout juste de paraître. Mais Marcelin Plesnay, c'est aussi quelqu'un dont les écrits sur la peinture ont, en particulier sur les peintres, une influence que personne aujourd'hui ne se risquerait à discuter. On peut les découvrir, ces écrits, dans L'enseignement de la peinture, un livre qui a paru en 1971, et dont une version abrégée a été publiée dans une collection de poche, la collection Point, sous un autre titre, Système de la peinture. Art et littérature se rejoignant dans un autre gros volume qui, lui, est apparu en 1977 et qui, justement, a pour titre Art et littérature. Il faudrait parler aussi de Marcelin Plesnay, journalier. Il a publié le journal de son voyage en Chine en 1980 et, simultanément à son livre de poésie, chez Hachette POL, Spirito Peregrino, chronique de journal ordinaire, le journal de l'année 79. Et peut-être que je ne dois pas oublier de dire que Marcelin Plesnay est né en 1933 et qu'il est secrétaire de rédaction et membre du comité de la revue Telle Quelle depuis 1962. Ça, je crois, Marcelin Plesnay, qu'on peut le dire, car vous êtes peu nombreux à être resté au comité de rédaction de Telle Quelle depuis 1962.
Nous sommes deux. Solers, qui était là bien avant, et moi-même, qui suis entré en 1962, effectivement. Telle Quelle est une grande aventure. C'est un bateau qui va sur des mers mouvementées et dont les marins parfois tombent. Disons que j'ai le pied marin.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais je dois redire encore une fois que nous sommes en direct chez vous, rue de la Convention, dans le 15e arrondissement. De vos fenêtres, on aperçoit la Seine. Et à côté de vous, des invités que je vous laisse le soin de présenter. Je vois d'abord une jeune femme blonde sous un oranger.
Oui, alors la jeune femme blonde sous un oranger, c'est Jacqueline Léchave. Qui est une très vieille amie et une très bonne amie.
Ciel.
Qui est une jeune vieille amie.
Merci. Merci.
Qui a publié l'année dernière un livre très important sur la danse et certainement le livre le plus intéressant, le plus important qui a été publié sur ce danseur américain qui s'appelle Merce Cunningham et qui est bien connu en France puisqu'il est intervenu à l'opéra notamment.
Et à Avignon au festival.
Oui. C'est un livre d'entretien et c'est certainement le meilleur livre qui ait jamais été fait sur et avec ce Merce Cunningham.
Mais Marcela, c'est parce que c'est aussi le seul livre fait avec Merce Cunningham.
C'est le seul qu'il ait accepté de faire.
C'est cela, c'est juste.
Laissez-moi vous gratifier.
Un peu.
Là, encore une jeune femme.
Alors, encore une jeune femme qui est aussi une vieille amie, qui est Anne-Marie Houdbin, qui est linguiste, que je connais depuis mon Dieu, une dizaine d'années, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur le langage québécois, dans un gros livre qui est paru chez Stock. Qui est paru chez Stock, et j'ai eu à cette occasion l'honneur d'interviewer Anne-Marie Houdbin sur des problèmes que me posait le langage québécois. Ça a donné quelque chose qui n'a peut-être pas été très lu, mais que je trouve très intéressant.
Oui, moi aussi. Je trouve qu'on a été très intéressants, tout à fait. En particulier en parlant aussi, comme ça, du langage de l'oral, du langage de Lacan. Il me semble qu'on a parlé du langage français aussi.
Bon, ben, on n'y était pas, alors ne nous faites pas regretter. Mais il y a encore un mathématicien et deux peintres.
Alors, il y a encore Henri Nathan, qui est d'abord un mathématicien. Je ne sais pas s'il faut dire d'abord un mathématicien et ensuite un homme de culture, ou un mathématicien et un homme de culture, qui a traduit avec Jacqueline Léchave un long poème qui figure dans Rime, donc, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, qui ont traduit ce poème qui s'appelle La gloire du ciel en anglais. Et il y a parmi nous, donc, dans un tour de table un peu croisé, que nous pratiquons, Raquel, qui est peintre, avec qui je viens de faire un livre, ou qui vient de faire un livre avec moi, qui s'appelle Ma destruction, où il y a de magnifiques œuvres de Raquel. Raquel a cette particularité de faire soit de très très grands tableaux, soit des œuvres qui sont au format du livre. Je trouve ça très 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 intéressant de passer de ce format absolument monumental à ce format du livre, qui peut être aussi un format monumental, n'est-ce pas? Le livre peut très bien évacuer la qualité phénoménologique qu'il représente.
Et puis un autre peintre à côté d'elle, qui ne copie pas sur elle, je dois le dire.
Et un autre peintre à côté d'elle, qui s'appelle Pierre Nivollet, qui appartient à la dernière génération de peintres apparus à Paris, et qui effectivement a une peinture plus immédiatement expressivement lyrique que celle de Raquel, et qui se fait notamment remarquer par une sorte de commentaire lyrique sur l'arabesque.
Je remarque donc que ce soir, vous n'avez pas invité de poètes, ce sont des gens qu'on ne fréquente pas.
Cher Alain Weinstein, vous étiez là.
Alors parlons d'autre chose. Parlons, puisque nous sommes, Marcela Plenet, en direct chez vous, parlons de ce lieu où nous sommes. Est-ce que c'est un non-lieu ou un vrai lieu? Et comment organise-t-on le lieu de son renfermement?
Je ne sais pas du tout. Je crois que le lieu de son renfermement, en vérité, on ne l'organise pas. Disons qu'on prend des précautions. On prend des précautions avec les intrusions extérieur, mais on n'organise pas le lieu de son renfermement. Ça n'est pas vraiment un lieu de renfermement. C'est quand même d'une certaine façon un non-lieu. Je pense qu'il doit être très très difficile d'organiser un lieu viable à Paris. Paris, c'est vraiment la ville où on installe son bureau et son standard téléphonique, n'est-ce pas?
Comment le décrire rapidement pour que les auditeurs puissent l'imaginer? On va dédier cette séquence à Claude Royer-Journoux.
Eh bien, écoutez, d'abord, je voudrais dire que je regrette que notre ami Claude Baudroyer Journaux ne soit pas là, parce que c'est un autre poète avec vous, cher Ravenstein, que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. Et qui plus est, mon admiration me donne l'occasion de vous souhaiter de bonnes vacances. Je regrette qu'il ne soit pas là, mais je suis très heureux qu'il
nous reviendra bronzé.
Alors ce lieu, comment le décrire? Il est, disons qu'il est juste au-dessus du pont Mirabeau, qui est un haut lieu poétique français depuis le début de ce siècle. Parce qu'il paraît que la Seine coule dessous. Je crois que ça n'est plus tout à fait la Maine, d'ailleurs, qui coule sous ce pont Mirabeau. Disons qu'il est entre le pont Mirabeau et la Tour Eiffel et qu'il bénéficie d'un très heureux soleil couchant que j'aime beaucoup.
Alors du coup, après cette petite parenthèse sur le lieu, j'aimerais qu'on parle du dehors, parce que au dos de Provisoires amants des nègres, donc votre premier livre, je lis Marcelin Plénet a passé son enfance et son adolescence à voyager à travers la France et l'Europe. Et puis, je sais aussi, parce que j'ai lu les autres livres, qu'il y a eu de plus grands voyages, les États-Unis et la Chine, et l'Italie aussi, et surtout Venise. Mais des petits voyages aussi qui ont leur importance, comme les voyages à Blévy, qui est aussi un lieu élu, un village de campagne, je crois. Puis il y a aussi le fait que, comme tout écrivain, vous êtes, et vous le dites vous-même, le voyageur de commerce de votre œuvre.
Oui, ça c'est affreux. Mais écoutez, moi je ne sais pas vraiment de ces lieux et de ces voyages. Ce que je sais, c'est que Blévy est un lieu qui me permet de ne pas être tout à fait dans mon siècle, de temps en temps, ce qui est bien agréable et bien utile pour écrire.
C'est où ça ?
Blévy, c'est entre Chartres et Dreux. C'est au bord de la Beauce, c'est une petite vallée qui se trouve au bord de la Beauce et où j'ai une petite maison où j'essaie de me retirer le plus souvent possible. Donc si vous voulez, c'est un lieu, c'est une maison qui date du début du 19e siècle et c'est un lieu qui est tout à fait éloigné de Paris. C'est en cela que je le chéris.
On ne parle pas de la Chine, on ne parle pas des États-Unis, pas tout de suite, pas de l'Italie.
Comme vous voulez.
Bon, on en parlera plus tard. Alors, parce que dans le journal qui vient de paraître, je lis cette phrase. En vérité, je ne me retrouve que dans la longue et lente fréquentation des idées, des mots, des phrases. On retrouve donc là l'idée du renfermement.
Écoutez, ça c'est d'une certaine façon le problème de l'écrivain. C'est-à-dire que évidemment, lorsqu'on rencontre un écrivain dans la rue, chez l'épicier ou chez le boucher, il se distingue pas forcément de son voisin. Je crois que quand même le problème de l'écrivain, c'est que c'est un homme qui n'est jamais tout à fait dans l'existence, qui n'est jamais celui que l'on rencontre et qui n'est jamais au fond celui qu'on voit. Et j'ai envie de dire en ce moment qu'il n'est jamais non plus tout à fait celui que l'on entend, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que lorsqu'il est écrivain, eh bien, au fond, il doit détester parler de lui-même et il doit détester parler de ce qu'il écrit. Il est même dans l'incapacité de le faire d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, c'est tout le problème du rapport à l'œuvre littéraire, c'est qu'on n'est jamais en direct sur l'œuvre littéraire. On est toujours déporté par rapport à l'œuvre et au fond, on est toujours pris dans une série de représentations de l'œuvre et de représentations de l'écrivain qui n'ont finalement pas grand-chose à faire ni avec l'œuvre ni avec l'écrivain. L'écrivain, évidemment, il vit dans les phrases, il vit dans les livres, il vit dans le langage et peut-être même qu'il vit dans ses rêves.
Dans la phrase que je citais, je remarque que vous placez les idées avant les mots.
Oh, vous savez, la construction d'une phrase est pour moi plus importante que ce qu'elle dit. Donc si j'ai mis le mot « idée » avant la lettre ou avant la phrase, c'est que tout simplement c'était plus réussi à l'oreille.
Tout à fait.
Bon, je vais vous lire un extrait du livre 2 de Combes qui, me semble-t-il, montre assez bien ce qu'il peut en être du renfermement de l'écrivain, même à l'extérieur d'une maison. Le soleil semble soudain se retirer et la douleur qui tantôt le retenait s'efface. Un livre tient un livre. De cette marche à travers champs, il supporte la chaleur, s'arrête au moment où il se retourne. De chaque côté de lui, ce qui passe retient son attention, moins pourtant que cette douleur agaçante dont il se souvient, comme de son visage caché par l'ombre, un peu gris. Ou encore ce qu'il nomme la nudité. Était-elle attachée ou libre ? Il se retourne. Un livre le retient de vivre, cette signature et ce qui ressemble au plaisir, moins à la douleur de ces immeubles gris et à ces va-et-vient qu'il fait devant la porte depuis qu'il sait et qu'il attend, depuis que la menace pèse soudain. Autant que je puisse m'en souvenir, aujourd'hui, la chaleur garde le paysage dans cette immobilité. À droite et à gauche, un rang de cyprès suit la courbe de la colline. Nous nous sommes un peu éloignés du village, peut-être. Mais ce retour attendu, chaque fois qu'il la regarde, et les arbres qui suivent la courbe des collines, et chaque fois qu'il la regarde, cette ombre qui passe dans ses yeux un peu gris, et comme elle retient sa respiration. Chacun se tait de chambre en chambre. Il est question de revenir dans une maison autour de laquelle circulent ces rumeurs. Et ce qui les habite n'est rien d'autre que cette rumeur confuse, tour à tour déplacée. Non pas un reste d'humanité, toute l'humanité en eux. Et pourtant, ils restent immobiles, indifférents à cet événement qui tente de les tirer de droite ou de gauche, ou de les accueillir. Ce qui se fait d'un côté comme une lumière plus jaune, porte son ombre, commence également. Et le livre qui se fait d'un côté se partage dans sa lecture et dans son immobilité. C'est ce que j'écris, et tout change.
Une lecture de Combes, votre troisième livre de poésie. Mais avant cette lecture, il me semble avoir reconnu un célèbre opéra de Mozart, non ?
Eh bien, je crois qu'on a passé un extrait du Don Juan que l'on va entendre tout au long de cette émission, dans la mesure où il programme en grande partie le recueil de poésie qui vient de paraître aux éditions du Seuil, qui s'appelle Rimes. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, mais vous n'avez pas écrit beaucoup de textes théoriques, disons, sur la musique.
J'ai écrit quelques textes sur la musique, mais je n'ai pas écrit de textes théoriques sur la musique.
Dont l'un, d'ailleurs, a été traduit au japonais. J'avais omis de vous le dire. Je suis contente de vous l'annoncer.
Il y a un texte sur la
oui,
musique.
Oui, oui, oui.
Qui a été traduit en japonais, vous voyez, cher ami. Votre couvre d'échange chaque jour.
Vous l'aviez délivré rue du Dragon, vous vous souvenez peut-être, sur la religiosité en musique.
Effectivement, c'est un texte qui est paru dans Musique en jeu.
Voilà.
C'est un texte qui est paru dans Musique en jeu, qui n'est pas vraiment un texte théorique, qui est plutôt un texte de réflexion sur,
oui.
Sur la
notes.
Musique et sur la musique
bref.
Répétitive, notamment, sur la musique contemporaine et sur la musique répétitive. J'ai publié un certain nombre de textes sur la musique, sur John Cage, surtout sur la musique moderne et contemporaine, mais il y a dans le journal de longues notations sur la musique, sur précisément le Don Juan de Mozart, sur le Rex Progress de Stravinsky. Il y a très très souvent sur Berg, il y a très très souvent dans le journal des notations sur la musique.
Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus le rôle que joue le rythme justement dans votre poésie, et aussi que Stanze est présenté comme une épopée musicale. Le sens des mots est habité par la musique, dites-vous.
Oui, et vous savez, je crois que c'est pour moi, me semble-t-il, presque une banalité d'associer la poésie et la musique, n'est-ce pas ce serait même presque une banalité d'associer la prosodie et la musique. Il est bien évident que tout langage littéraire, à partir du moment où il a une aspiration artistique, est un langage dont la construction obéit à des rythmes et que ces rythmes sont très difficilement rationalisables dans l'ordre strict de la phrase et de la syntaxe, et qu'on a alors presque immédiatement recours à des éléments musicaux.
Oui, j'ai l'impression quand même que le son vous préoccupe moins que l'image.
Pas du tout. Pas du tout. Le rapport...
Oui.
Le rapport. Non, il peut y paraître, effectivement. Vous avez tout à fait raison de souligner. Vous avez tout à fait raison de souligner ce que sans doute beaucoup de gens pensent, mais ce n'est pas vrai du tout. Le rapport au son est beaucoup plus proche et beaucoup plus intime que le rapport à l'image. Ce qui m'intéresse dans le rapport à l'image, en vérité, c'est un des aspects de la littérature. C'est son caractère visuel, n'est-ce pas? Et si je m'intéresse à l'image, si je m'intéresse à la peinture, c'est précisément que pour essayer d'enlever à la littérature et peut-être même à la peinture cette confusion qui porte sur le visuel. C'est-à-dire que les gens ont tendance à croire ce qu'ils voient, n'est-ce pas? Or, précisément, eh bien, un poème, ça n'est pas tellement de l'ordre du visuel, n'est-ce pas? Il est bien évidemment, ça passe par le visuel, mais c'est entièrement de l'ordre auditif. Ce qui fait que, si vous voulez, le travail que j'ai pu faire sur la peinture et l'espèce d'insistance que je peux mettre sur la peinture, par exemple, on peut dire que dans Rime, il y a plusieurs illustrations, n'est-ce pas? Il y a des figures dans Rime, il y a des figures dessinées dans Rime. Eh bien, si vous voulez, c'est simplement pour essayer d'évacuer de la lettre son caractère visuel et de lui restituer complètement son caractère auditif.
On dit quand même un mot des trois premiers livres, parce que vous passez tout de suite à Rime. Et je crois que pour parler de ces trois premiers livres de poésie que vous avez publiés, il faut reconstituer un peu le climat culturel de la fin des années 50 et du début des années 60, c'est-à-dire qu'il faut parler de tel quel.
Il faut parler de tel quel. Je n'arrive pas à tel quel au commencement de tel quel. C'est-à-dire, en fait, j'arrive avant le commencement de tel quel, puisque j'ai découvert, vous savez, je suis secrétaire de rédaction de cette revue, donc je dispose des archives, ce qui me permet de fouiller dans les archives, et j'ai découvert que un de mes poèmes avait été prévu au numéro 0 de tel quel. Mais en vérité, je ne publie pour la première fois dans tel quel qu'au numéro 8, c'est-à-dire en 1962, et je deviens à partir du numéro 12 secrétaire de rédaction et membre du comité de la revue. Eh bien, vous savez, le climat littéraire français au moment où tel quel se fonde, c'est un climat assez étroit. C'est un climat dominé très nettement par un mouvement romanesque qui vient de se mettre en place, qui s'appelle le Nouveau Roman, qui est tout à fait.
Ne renversez pas le micro complètement.
C'est le Nouveau Roman. Je retournais vers le Nouveau Roman. Qui est très français, qui est très dans sa rationalisation délibérée de la fiction et même du langage. La poésie n'a que peu de place. Lorsque j'entre au comité de tel quel, il n'y a pas de poète au comité de tel quel. Je suis le premier poète qui entre au comité de tel quel. J'y entre d'ailleurs en même temps que Denis Roche.
La liste s'arrête là, non? La liste des poètes?
Non, pas du tout. Michel Deguy a fait un bref passage au comité de tel quel. Et ensuite, nous en avons publié pas mal d'autres. Mais qu'il soit resté longuement au comité tel quel, c'est Denis Roche et moi-même. Le climat est assez triste. C'est le climat français d'après-guerre, n'est-ce pas? C'est le climat français d'après-guerre qui est un climat assez, littérairement assez triste, assez éteint, où les œuvres étrangères n'ont pas vraiment pénétré en France, où, si vous voulez, mais pas seulement les œuvres étrangères, c'est le moment où les premiers volumes d'Artaud ne sont pas publiés. C'est le moment où on ne trouve pratiquement pas les livres pour lire les livres qu'aujourd'hui tout le monde a à sa disposition, que ce soit les livres de Breton, que ce soit les livres d'Artaud, les livres des surréalistes, que ce soit les œuvres de Hölderlin, on ne les trouve pratiquement pas, et tel quel est une des premières revues à publier ces textes. Donc, si vous voulez, ce qui se passe dans ce climat d'entrée à tel quel, d'une certaine façon, eh bien, c'est une accentuation, je dirais, systématique, non pas de la modernité en tant que modernité, mais de certains éléments de la modernité.
Et tel quel, alors, a un rôle assez considérable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, son influence est moins sensible. C'est une impression, simplement? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que l'influence est beaucoup plus sensible qu'elle n'était. Vous savez, lorsque je suis entré à telle quelle, la revue se vendait à 800 exemplaires. Aujourd'hui, nous tirons entre 5000 et 6000 exemplaires. C'est proportionnellement, ça laisse supposer une certaine influence. Je pense que telle quelle a effectivement un rôle considérable et que si vous voulez, si aujourd'hui, par exemple, la lecture d'une revue comme la NRF peut nous sembler extrêmement difficile, vieillotte et un peu caduque, eh bien c'est quand même grâce à telle quelle que cela s'est produit, c'est-à-dire...
Oui, je crois que vous vouliez dire quelque chose.
Non, je ponctuais simplement. Chaque fois que je prenais en main la NRF, je constatais de même que c'était vieillot et caduque. Oui.
C'est-à-dire qu'il y a, un travail, si vous voulez, il y a un travail que telle qu'elle a fait et que aucune autre revue n'a fait, même si c'est Gallimard, n'est-ce pas, qui est éditeur des livres de bataille et des livres d'Artaud. Eh bien, on s'aperçoit que, si vous voulez, Gallimard a publié ses livres et les a mis d'une certaine façon dans la bibliothèque, mais que les revues que fait Gallimard, et je ne pense pas seulement à la NRF, je pense à d'autres revues, jeunes revues que Gallimard a pu faire, eh bien, ces revues n'ont pas porté ces textes dynamiques, ces textes vivants de notre XXe siècle, pour ne pas parler des textes du XIXe ou même du XVIIIe, n'est-ce pas? C'est une revue, la NRF est une revue qui est restée, je dirais, dans le halo XIXiémiste de la première moitié de notre XXe siècle et qui n'a pas passé la guerre, bizarrement, d'une certaine façon, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous pouvez toujours voir au sommaire de la NRF, je ne sais pas, un inédit Giono, quelque chose comme ça, qui sont des auteurs, je ne veux pas dire que ce ne sont pas des auteurs intéressants, n'est-ce pas? Mais je veux dire que ce sont des auteurs qui ne sont pas liés sur l'actualité vivante de la langue, n'est-ce pas, qui sont liés à un effet historique de la langue. Alors qu'en tant qu'auteur historique, ils soient importants, c'est incontestable. Malraux est un auteur historiquement extrêmement important, Claudel est un auteur historiquement extrêmement important, peut-être d'ailleurs plus important que Malraux et que Giono certainement, mais si vous voulez, ce sont des auteurs fixés à un moment historique de l'histoire de la langue, et on s'aperçoit que, eh bien, pour avoir généralement rendu compte de ce qu'il y avait de vivant et de contemporain dans la langue, il n'y a qu'une revue qui se soit imposée en tant que telle, et c'est effectivement telle qu'elle.
Oui, mais la question que je vous posais, c'était, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il n'y a pas une usure quelque part, je ne sais pas, du côté de telle qu'elle ou du côté des lecteurs?
Le tirage de la revue ne le laisse pas supposer. Du côté de telle qu'elle, vous savez, Solers a, je crois, 44 ans, j'en ai 47, on a encore chacun une bonne quarantaine d'années à vivre, on en parlera dans 40 ans.
Il serait intéressant de comprendre pourquoi Alain Weinstein pense que tel quel en ce moment a moins d'audience. À partir de quoi pense-t-il cela?
Il me semble que la rumeur est beaucoup plus discrète aujourd'hui. On en parlait beaucoup autrefois, aujourd'hui on ne sait plus ce qu'il y a dans les sommaires de tel quel. Autrefois, chaque fois qu'un numéro paraissait, tout le monde était au courant de ce qui s'y trouvait.
Oui, mais je crois que le travail qui se fait aujourd'hui est quand même vient de là, non? Enfin, je crois qu'il y a un déblayage qui a été fait et qui aujourd'hui donne ses fruits. Alors évidemment,
Anne-Marie Houdin.
Oui, il me semble qu'on peut voir aussi une influence en creux, c'est-à-dire pas simplement parce qu'on parle pour, mais parce qu'on parle contre, parce qu'un certain nombre de discours manifestement...
Vous croyez justement qu'on parle tellement contre?
Non, mais pas forcément dans le dit évident, mais un certain nombre de discours...
C'est reconnu comme une institution aujourd'hui.
Écoutez, moi j'ai des jeunes étudiants, par exemple. Bon, mes jeunes étudiants, on en a vu... Enfin, on a vu un étudiant récemment... apostrophe. Bon, donc un de ces étudiants...
Ne citez pas la concurrence.
Ah, voilà, tout de suite. Donc un de ces jeunes étudiants de lettres, tous ceux qui n'ont rien à se mettre sous la dent et qui cherchent à se mettre quelque chose sous la dent, y compris dans les lointaines provinces, ben, c'est quand même à tel quel qu'ils réfèrent. C'est-à-dire essentiellement à Solaire, c'est Plénet. Ben, alors, ça veut dire quelque chose quand même. Je crois que ce que Marcella a dit, c'est bien effectivement... quelque chose peut-être, non seulement d'une langue nouvelle, mais de voix nouvelle, d'une écriture nouvelle qui passerait là.
Oui, ça veut dire exactement ce que je voulais vous faire dire. Il faudrait, faudrait quand même dire un mot de ces trois premiers livres qu'on a laissé tomber rapidement, Marcellin Plénet. Aujourd'hui,
qui a cette trinité.
Vous-même, qu'est-ce que vous pouvez en retenir de ces trois livres?
Mais je suis très frappé que vous les réunissiez, parce qu'effectivement, je les réunis, n'est-ce pas? Il me semble qu'ils forment un ensemble. Ils forment un ensemble. C'est difficile d'en parler, et j'ai beaucoup de difficultés à parler de j'ai beaucoup de difficultés à parler de mon œuvre et à la penser en tant que telle, n'est-ce pas? Ce que je sais en tous les cas, c'est que je les perçois comme un ensemble, et je les perçois comme un ensemble, comment dire, presque comme un parcours, didactique d'un apprentissage de la langue et d'une sorte d'évacuation de ce que pour moi la langue poétique moderne pouvait porter de modernité et de tic moderniste. Je dirais que de l'un à l'autre de ces livres, j'ai essayé d'évacuer les caractères modernistes de la poésie contemporaine, pour moi bien sûr, et à l'intérieur de ma propre langue. C'est-à-dire, si vous voulez, d'abord le caractère, disons, des vocations poétiques affectives, strictement affectives, et liées le plus souvent d'ailleurs à des paysages. Un de ces recueils s'appelle Paysages en deux. Des évocations plus immédiatement psychologiques et trop immédiatement psychologiques liées à la biographie et encore une fois au caractère affectif. Et puis aussi une volonté de, comment dire, de littéraliser la langue, n'est-ce pas, de la donner pour ce qu'elle est, de produire avec la langue quelque chose qui soit tout à fait abstrait. Si vous voulez, je dirais que du premier au troisième de ces livres, c'est un peu, d'une certaine façon, l'influence de Mallarmé que j'ai essayé d'évacuer.
Il catalogue est questo delle belle che amò il patron mio. Un catalogo gli è che ho fatiglio. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640. In Germania 231. 100 in Francia, in Georgia 91. Ma in Spagna. Camarile cittadino, fancatessa baronessa, marghesone principessa, e madonna, donna, 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 in Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, mamma, mamma.
Je rappelle donc les trois titres des trois premiers livres de Marcelin Plenet, chez qui nous dînons en direct ce soir. Provisoires amants des nègres, Paysages en deux et Comme. Puis ensuite, il y a eu en 1973, Stanze. Alors là, Stanze, Marcelin Plenet, c'est vraiment un gros livre. Et je remarque que ça fait quand même 8 ans qu'il a paru.
Oui, c'est un livre que j'ai mis 6 ans à écrire et qui a été publié maintenant il y a 8 ans. C'est un livre qui se distingue de Comme par la charge d'emprunt et la charge citationnelle à l'intérieur des vers et à l'intérieur du livre. Et je peux vous lire, par exemple, si vous le souhaitez, une citation qui se trouve à l'intérieur de Stanze, à l'intérieur du chant 3 de Stanze.
Oui, j'aimerais bien écouter un extrait, justement.
Que j'ai toujours haï les pensées du vulgaire, qu'il me semble profane, injuste et téméraire, mettant de faux milieux entre la chose et lui, et mesurant par soi ce qu'il voit en autrui. Le maître d'Épicure en fit l'apprentissage. Son pays le crut fou. Petits esprits, mais quoi? Aucun n'est prophète chez soi. Ces gens étaient les fous, Démocrite le sage. L'erreur alla si loin qu'Abdère députa vers Hippocrate et l'invita, par lettre et par ambassade, à venir rétablir la raison du malade. Notre concitoyen, disait-il en pleurant, perd l'esprit, la lecture a gâté Démocrite. Nous l'estimerions plus s'il était ignorant. Aucun nombre, dit-il, les mondes ne limitent. Peut-être même ils sont remplis de Démocrites infinis. Non content de ce songe, il y joint les atomes, enfants d'un cerveau creux, invisible fantôme. Et mesurant les cieux sans bouger d'ici-bas, il connaît l'univers et ne se connaît pas. Un temps fut qu'il savait accorder des débats. Maintenant, il parle à lui-même. Venez, divin mortel, sa folie est extrême. Hippocrate n'eut pas trop de foi pour ces gens. Cependant, il partit. Et voyez, je vous prie, quelle rencontre dans la vie le sort cause. Hippocrate arriva dans le temps que celui qu'on disait n'avoir raison ni sens cherchait dans l'homme et dans la bête quel siège à la raison, soit le cœur, soit la tête. Sous un épais ombrage, assis près d'un ruisseau, les labyrinthes d'un cerveau l'occupaient. Il avait à ses pieds maint volume et ne vit presque pas son ami s'avancer, attaché selon sa coutume. Leur compliment fut court ainsi qu'on peut penser. Le sage est ménager du temps et des paroles, ayant donc mis à part les entretiens frivoles et beaucoup raisonné sur l'homme et sur l'esprit, ils tombèrent sur la morale. Il n'est pas besoin que j'étale tout ce que l'un et l'autre dit. Le récit précédent suffit pour montrer que le peuple est juge récusable. En quel sens est donc véritable ce que j'ai lu dans certains lieux, que sa voix est la voix de Dieu.
Alors, Stanze, c'est une épopée. Une épopée musicale, une épopée transhistorique.
Oui. C'est un livre qui est composé de 9 chants, dont 4 ont déjà été publiés.
Dont le cinquième est annoncé.
Le cinquième paraîtra, je pense, l'année prochaine. Le livre se terminera par un autre volume de 4 chants. En principe, Stanze est une sorte de parcours ou de voyage initiatique d'un homme contemporain à travers sa culture et à travers les siècles.
Il faut peut-être citer le sous-titre.
Oui, le sous-titre, c'est « Incantation dite au bandeau d'or ». Stanze repose en effet sur une légende qui est la légende du Siwuki qui veut qu'un moine de bonnes intentions, mais bête, partent à la recherche en Occident des livres sacrés.
Moi, j'aimerais bien dire 2 mots de Stanze parce que c'est un très grand livre, je crois. Oui, bah, peut-être 5 même. 2 ou 3, comme ça. Vraiment, je crois, un très grand livre. Et puis, la citation là, que vous venez de faire, peut-être... est un peu déroutante pour le lecteur. Et moi, je voudrais reprendre un peu ce que vous venez de dire.
Expliquez-nous tout ça.
Oui, ce voyage comme ça, initiatique. Bon, Stanze est composé, dans ce qui en est paru, de 4 chants. Et tout le chant, certains chants montrent effectivement ce trajet du sujet européen dans sa constitution historique, culturelle, transculturelle, comme vous dites, à savoir à travers l'Égypte, à travers la Grèce, à travers Rome. Effectivement, là, il y a toute une culture qui s'annonce. Je crois que tout à l'heure, comme ça, avant l'émission, on demandait, quand à Marcelin Plenet, l'une d'entre nous demandait ce qu'il lisait pendant qu'il écrivait comme, et il ne citait rien, comme Homère, Shakespeare et d'autres encore, grands noms, comme vous voyez. Alors, je crois que le lecteur soucieux, comme ça, de culture, pourrait retrouver ça dans Stanze de façon, je crois, étonnante. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est cette espèce de construction et de dissolution comme ça d'une identité à la fois subjective, totalement subjective, et pourtant ni simplement psychologique ou ni simplement affective, et pourtant totalement ça dans le champ d'une langue et dans le champ d'une langue très différente selon les champs. Et pourtant, ça chante dans Stanze. Et justement, pour reprendre ce que vous avez dit, vous, tout à l'heure, sur le fait qu'il avait...
C'est à
moi ? Oui. qu'il avait placé les idées avant les mots. Moi, je crois effectivement qu'il s'agissait du rythme de cette phrase, avant tout. Et les idées et les mots, en même temps, ils disent quelque chose, et peut-être autre chose que ce que nous y entendons, ou que ce que vous y avez entendu, dans ce rythme-là qu'il crée. Oui. Car effectivement, je crois que... Bon, ça paraît... étonnamment, puissamment dans Stanze par rapport même aux autres livres, si vous me permettez de le dire. Peut-être, on reviendra tout à l'heure sur Rime, mais c'est encore autre chose, mais il y a là une langue. Et je crois qu'elle est, qu'elle aboutit dans Stanze de cette sorte qu'on va la retrouver maintenant.
Oui, il y a une langue, mais il y a aussi au départ cette légende chinoise dont parlait Marcelin Plenet.
Oui.
Et il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la place de l'Orient dans votre travail.
Oui, non, ce que je remercie Anne-Marie, ce qu'elle vient de dire est extrêmement flatteur et vrai. mais je crois qu'il faut aussi ajouter que le livre n'est pas aussi sérieux que ça, que c'est aussi un livre qui est plein d'humour, qui est plein de blagues, qui est plein de jeux de mots extrêmement vulgaires ou triviales, ou voire même de baby talk, de langage enfantin, et que enfin cette légende chinoise, qui est la légende donc d'un moine qui va chercher ses livres et qui est accompagné d'un singe qui le protège, eh bien je l'ai un peu interprété sous la forme, en m'identifiant à ce singe, si vous voulez, je l'ai un peu interprété en m'identifiant à ce que j'appellerais un singe savant, n'est-ce pas? C'est ce qui crée aussi l'humour par rapport à la culture, c'est que c'est un livre qui a l'ambition de se promener à travers la culture, mais de s'y promener d'une façon légère, n'est-ce pas, pas d'une façon lourde ou pédante, mais qui a l'intention de s'y promener et en se prenant, n'est-ce pas, en se prenant vraiment, en jouant le jeu du singe savant, n'est-ce pas, et en jouant le jeu de tous les ridicules du singe savant et de tous les ridicules de la culture, et en même temps en jouant le jeu de toutes les beautés de la culture, de tout ce que de cette culture peut avoir d'admirable. Par exemple, le poème que j'ai lu, n'est-ce pas, qui est une fable de La Fontaine sur des Démocrite, est une fable absolument superbe. On ferait difficilement mieux. Donc, si vous voulez, il y a ce caractère-là, et sans doute, d'une certaine façon, c'est peut-être plus facile de sortir des limites de sa culture, parce que des limites de notre culture, qui sont presque toujours 19e-istes, n'est-ce pas ? Nous vivons dans une culture dont l'horizon culturel est le 19e siècle, oui. En France notamment. Eh bien, c'est peut-être plus facile d'en sortir en prenant un point de vue tout à fait étranger, c'est-à-dire l'Orient, c'est-à-dire la Chine.
Oui, alors peut-être une toute petite remarque, parce que quand j'ai dit une langue, je voulais dire sa langue, et pas la langue française en particulier. Et justement, ce qui déroutera, je crois, le lecteur, pour avoir pratiqué Stanze devant d'autres lecteurs, je peux le dire, c'est évidemment ces tons tout à fait différents dans les chants. Donc c'est à la fois ces paroles différentes ou ces langues différentes. Mais quand je voulais dire une langue ou sa langue, c'était justement, bon, peut-être il faut employer le mot de Barthes et dire sa voix.
Mais je crois qu'effectivement c'est intéressant de souligner que aucun des chants de Stanze n'est écrit de la même façon, voilà. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ça n'est pas comme, je sais pas, comme la légende des siècles de Victor Hugo, du premier vers au dernier, la machine se met en route et broie sa prosodie d'une certaine façon. Ça n'est pas ça du tout. Et aucun des chants n'est écrit de la même façon, oui. N'a la même forme, ne fonctionne sur la même prosodie ou sur la même rythme.
Justement, vous pourriez préciser un peu comment c'est composé, ces chants?
Et si vous voulez, ces chants se composent, disons, des origines de notre culture à nos jours, d'une certaine façon. Mais ce qui me semble intéressant à constater, c'est que c'est les rapports qu'un homme contemporain peut entretenir aujourd'hui à la culture grecque, à la culture latine, à la culture égyptienne, à la culture chinoise. Si vous voulez, nous sommes aujourd'hui à des carrefours culturels d'information, qui fait que, me semble-t-il, un homme ne peut plus parler une langue. Il est forcé de parler un certain nombre de langues, une certaine quantité de langues. Il ne peut plus s'exprimer continuellement sous la même forme rhétorique. Il est forcé d'employer des multiplicités de formes. Il ne peut plus même se contenter d'être simplement un écrivain enfermé dans la littérature. Il est forcé de s'ouvrir à d'autres formes de culture, à d'autres formes d'art, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire la peinture, c'est-à-dire la danse, à d'autres forme d'expression sociale, c'est-à-dire la science, la psychanalyse, les mathématiques, si les mathématiques sont une science. Il doit donc emprunter un nombre considérable de langages, et je pense que Stanze a l'ambition de représenter, de mettre en scène la multiplicité de ces langages.
Alors, juste comme ça, pour illustrer pour le lecteur.
Comme ça, mais dans le micro.
Comme ça, voilà. Mais dans le micro. Pour illustrer pour le lecteur, par exemple, on pourrait dire que le chant 1, d'une certaine façon, porte une voix, alors que dans le chant 4, il y a comme ça une multiplicité de voix qui parlent, y compris de voix qui parfois nous mettent en cause parce que... Très critiquant, et la culture, et les objets qu'on aime, et les fétiches, etc.
Moi, j'aimerais bien, pour terminer sur Stanzé, poser une dernière question à Marcelin Plenet. Depuis la publication des premières pages, c'est-à-dire c'est en 1970, dans la revue telle quelle, est-ce que le projet s'est modifié? Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que ces difficultés, par exemple, viennent de la Chine, justement?
Non, pas du tout, parce que la Chine a produit un schéma général qui n'a strictement rien à faire avec la Chine contemporaine, n'est-ce pas, puisque c'est une Chine tout à fait archaïque qui produit ce schéma et cette légende. Le schéma général, c'est le schéma du calendrier chinois qui est vieux comme la Chine même. Donc ça n'a aucun rapport avec la Chine. C'est tout simplement un schéma d'adéquation d'une écriture avec le sens que cette écriture doit porter, ce à quoi j'attache la plus grande importance aujourd'hui. La poésie, selon moi, doit porter un sens qui doit être aussi explicite que possible, et encore plus explicite que cela, même si c'est réalisable. Donc, si vous voulez, la grosse difficulté que j'ai, c'est une difficulté de clarté dans la langue poétique sur ce chant 5 qui est en train de se terminer.
En attendant, vous nous lisez un autre extrait de l'un des 4 premiers chants?
Très volontiers, c'est un extrait du dernier chant et qui est très lié au premier extrait, puisque ça n'est plus d'Épicure qu'il est question, mais de Démocrite. Et il est intertitré l'ami de tout au monde. Démocrito, che il mondo a caso pone aux enfers et à la joie riante et à l'ignorance des livres d'où montent ces abeilles d'or. Éclair ou tonnerre, Lucrèce, ami de tout au monde, le dit. Ainsi par l'univers s'envolent les pensées de la nature. Quant à moi, en lisant, je suis sans maître et sans pensée. Et je laisse vers moi l'année perdue dans la matière. Et ces sages roseaux, ceux qui disent la science, et les éclats de leur vie cachés selon le rythme des héros, lorsque je les rencontre dans l'histoire comme Dante aux enfers, toujours luttant contre l'obscurité et toujours sans repos. Sans limite, là, ne sachant plus ce que je peux trouver avec joie, et pourtant comme tant d'autres porteurs d'étincelles dans le vide. Après des siècles, ce qui n'est plus continue de chanter dans la saveur brûlante du plaisir et de la poésie, où il porta l'arguerre, docti, furor, ardous, lucreci, le premier, plus proche dans la grande douleur vidée de l'univers et de l'océan qui l'emporte, histoire, opéra de la science logique à la porte de notre histoire, ici comme à la porte des enfers.
Leggeri di testa, non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa, ma per me cominciato non ha. Ah, 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 che piacere che sarà. Ah, 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 che piacere che sarà. Vieni, vieni, carina, godiamo, e cantiamo, balliamo, sogniamo. Vieni, vieni, vieni carina, godiamo, che piacere che sarà. Ah, 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 che piacere che sarà.
De l'ignorance de la mer, je savais les désastres. Tonalité de l'ignorance, quelle paix, quel appétit. Et quel appétit de la mer, quelle tendre matinée, l'air transparent, pour le peu que j'en sais, devant celle où j'ai soufflé. J'en suis encore tout essoufflé en elle, et devant elle je l'ai vue, chienne nature adorante, louée, que je la vois comme une chienne. Poésie, mère percée. Foutre Dieu, c'est pour la baiser. Pour être tous ses pères avec ce drap de ciel que je m'envoie en l'air avec tous ses fils. Vierge comme toutes, privée de rien, sans rien déjà. Douce à la bouche d'air, il me faut cette queue qu'elle fauche, il me la faut dans l'air qu'elle a, comme musique entrant dans l'air, pour tout dire et la dire toute, lapant son bol, c'est pour tout dire, faire retour, coupant n'y étant pas par où je suis passé. Ma queue pour un fétiche, légère, vivant en elle envolée. Je t'échange ma gueule comique contre l'acide bleu, filant, lisant. Je l'ai perdue, et tout vient à manquer dans le beau ciel que j'entends. Femmes aux toiles blanches me chuchotant, tu m'aimes, mère des appétits, mère du vide, ô dette, mère des voiles, tu viens ma vieille, j'ai de l'appétit dans le sang, à tondre gris et vertu Dieu, dans les draps haut tendus sur le haut de nos têtes. Fleurs, balbutiements, des heures la gêne la tient toute, et des poissons volant en dauphin sur sa croupe, son lit, son pied fendu, je dis la mer pendue, le vase dans la goutte et mon douteux. La manger dans son lit, râlant dans ses cheveux, je dis mon langoureux jouissant dans son aisselle. Ailé, je dors, râlant, nu, vert, pourpre en feu, je me retrouve vierge dodue des hirondelles bleues, parlant par effraction en elle, en âge. Elle a un visage de perle, elle a perlé dans mon nuage, elle a nué dans ma ruelle. Ensemble, comme elle est foutue, je suis le regard de Dieu, elle n'est rien. Ou alors, mère matée, aromatée, mère des aromates, je me la prends, me la piétine, me l'entrejean, je me l'aime dans la narine, je me fais mon petit Saint-Jean, ma diade, mon héroïne, mon petit jour, mon hérodiade, dans un vase d'eau rond, je me fais à l'esprit soudain, mais c'est la bouteille à la mer. Ô vierge des délices, mère des impuretés, tour d'ivoire, ces déchets, pleines semences, je n'écris que d'y être noyé, que de n'y être né, maison dorée, arche d'alliance, c'est dans la confusion mystique que j'adore tes seins, que je garde tes reins, tes mots, tes cuisses et ta cité. J'écris dans ton bassin, j'en dis plus long, plus idoine, plus adéquate, langue en palais et tête en con, partons ma vieille, ma jeune, j'ensemence la table vide, le lit, la plaine, le discours, le fond de sable, la voix, le ventre creux et le dos rond, ô vertu détritus. En vérité, je dis, tu viens dans mes jeudis pour qu'on s'amuse ensemble à rouler dans l'éternité. Passons sur les plages de blé, il pleut des rivières et des perles dans la poussière et sous les dés, et j'aime quand sa fille la n'y être qu'une sonnette. Tire le fil, ma fille, mon écureuil, ma belette, ma selle d'eau d'où tu chelles, je t'emporte sur mes talons, nous volons, nous nous envolons. Je passe, la terre est un dais de satin, tu viens ma vieille, nous passons tous les horizons, puis rien, je te pends avec le soleil. Porte du ciel et de la Méditerranée, consensus, conçu sans conçu à Marseille, c'est bien, et né à Lyon. À Lyon, j'écris avec des riens, je me la suis dans mon sommeil. Hymne, rime de la raison, amarre celle indépendante qui dans ma gorge sème. Il pleut des cordes, je rame, je lèche, je la loue. C'est raté, mon loulou, il faut se déguiser niniche, prendre sa botte ou partir. Alors je me la corde toute dans la rosée, un doigt sur les lèvres et l'autre dans l'avion. Elle est toute tendresse, elle est toute mouillée, elle est en mangue. Je la prends dans mon aile, je me la prends au vol. De ses vertus de langue, j'en ai jusqu'au coude, jusqu'à l'urètre. De l'humus, je t'en pisse un plein bol.
Et oui, nous sommes à table, puisque nous sommes en direct chez Marcelin Plenet.
Vous voulez dire qu'on ne peut pas lire ces choses-là à table.
Marcelin Plenet, donc, vous nous avez réservé une surprise. Vous venez de publier dans la collection Telle Quelle un livre de poésie. Et ce livre, ce n'est pas le cinquième chant de Stanze que nous attendions, c'est Rime. Et pour une fois, le livre n'est pas sous-titré.
Non, ce sont des poèmes, c'est un ensemble de poèmes qui accompagnent la rédaction du chant 5 de Stanze, mais qui ne participent pas à ce chant 5.
Des marges.
Dans les marges, si l'on veut, oui, on peut dire cela d'une certaine façon. Il se trouve que, au cours de ces 5 ou 6 dernières années, ces poèmes ont fait volume et ont fait recueil, et que j'ai pensé qu'il serait intéressant de les publier dans la mesure où ils pourraient rendre lisible peut-être Stanze. Donc.
Le chat miaule.
Le chat miaule.
Oui. Il veut peut-être sa part du dîner. Mais comment s'appelle-t-il? Vous avez oublié de le présenter tout à l'heure.
Il s'appelle Petiot. Il s'appelle Petiot parce qu'il est le petit d'un autre chat, qui est une chatte, qui est dans la pièce à côté.
Alors on revient à Rime, qui est un livre toute violence dehors, on peut le dire. C'est un livre d'une très rare violence. Et il y a une phrase que j'aimerais citer de la préface. Ces poésies viennent en excès, en plus, et je m'y attache, et je m'attache comme un noyé au profond désir de vérité qui les entraîne et me tire par le fond. Alors d'abord, il y a ce mot de vérité que je retiens, car je me souviens
vous
de
avez bien raison.
L'exergue de Nietzsche que vous aviez placé en tête de votre premier livre.
Oui.
Et puis, il y a cette violence aussi.
C'est très intéressant que vous souleviez cet exergue de Nietzsche, parce que précisément, ça me permet de revenir sur ces trois premiers livres. Ce sont des livres...
Éternel retour, en somme.
Si l'on veut, pas vraiment. Ce sont des livres avec lesquels je n'ai jamais été tout à fait satisfait, n'est-ce pas? L'exergue de Nietzsche en tête de... Il me semble que c'est en tête de Provisoirement des Nègres.
Oui, c'est ça. Il faudrait peut-être rappeler cet exergue. Voyons, je l'avais quelque part... N'avez pas le livre sous la main.
Non, ceux-là ne sont pas des esprits libres, car ils croient encore à la vérité.
Vous serez reçu avec mention très bien.
Comment ?
Vous serez reçu avec mention très bien.
Merci. Je me souviens très bien de Nietzsche. Si vous voulez, je pense que je n'étais pas du tout satisfait de Provisoirement des Nègres, pas plus d'ailleurs que de Paysage en deux ou de Comme. Ce sont des livres d'expérience, des livres où j'ai fait l'expérience d'une certaine écriture, et j'avais choisi la phrase de Nietzsche précisément pour les tenir à distance, d'une certaine façon. Pour les tenir à distance, comment dire, d'une liberté qui n'était pas la leur. Je suis par contre tout à fait satisfait de rimes, pratiquement sans exception, je peux le dire, et pour moi aussi de stanze. Ce sont deux livres auxquels sur lesquels je ne ferai pas de réserve. La phrase que vous avez lue, elle concerne ce qui est au travail dans Rime. Je pense, si vous voulez, je suis convaincu qu'au fond, toute œuvre d'art, et plus particulièrement les œuvres littéraires et les grands moments de la poésie, apportent une certaine vérité sur la sexualité de l'humanité. Et que presque toujours, cette vérité est reçue comme violence et fait scandale. Si vous voulez, je pense que, par exemple, si on prend Les Fleurs du Mal et le procès de Baudelaire, eh bien, il est bien évident que Baudelaire apportait une vérité tragique sur la condition humaine de l'homme dans sa misère et dans sa débilité sexuelle.
Baudelaire,
et
je pense, qui est une grande référence pour ce livre.
Qui est une grande référence, si vous voulez, qui est une grande référence et que je mettrais d'une certaine façon en référence et en opposition à l'influence considérable qu'un poète comme Mallarmé peut avoir sur la poésie moderne contemporaine, n'est-ce pas? Je pense que Mallarmé vient quelque part boucher l'influence de Baudelaire, qui est considérable, et qu'on peut poser des questions à Mallarmé à partir de Baudelaire. On ne peut pas faire le contraire. Donc Baudelaire est effectivement une grande référence de ce livre. Il est mis en avant très très évidemment pour signifier cela, n'est-ce pas? Et si vous voulez, je pense que ce que Rime apporte alors comme vérité, ce que Rime creuse comme vérité, eh bien je crois qu'il faut dire, c'est d'abord que Rime sont des poèmes qui sont adressés, qui sont inspirés par une femme, et que cette femme est également une mère, n'est-ce pas? Ce qui ne va pas forcément ensemble, ce qui ne va pas sans pour créer une sorte d'inadéquation, et Baudelaire le premier l'a montré, n'est-ce pas? En tête des Fleurs du Mal, il y a un poème qui s'appelle Bénédiction, et qui est un poème tout à fait tragique du rapport du poète avec sa mère, ou du poète avec une femme qui serait également une mère.
Oui, en exergue, vous avez placé justement la phrase « Le fils en déconseillera la lecture à sa mère ».
Oui, alors ça c'est une phrase qui est empruntée, si je puis dire, en la transformant légèrement à Sade et à la philosophie dans le boudoir, n'est-ce pas? La mère en déconseillera la lecture à sa fille. C'est une phrase qui est tout à fait transformée, dans la mesure où précisément ce qui fait le centre de Rime, ce qui fait la violence de Rime et ce qui fait la vérité que Rime peut apporter, c'est que Rime traite très très précisément d'un des grands tabous de l'humanité et de toutes les sociétés, à savoir du tabou de l'inceste précisément, c'est-à-dire comment est-ce qu'une femme peut être également une mère, et en quoi y a-t-il adéquation ou inadéquation, en quoi y a-t-il monstruosité dans l'adéquation ou dans l'inadéquation.
Mais je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que simultanément, avec le journal, donc, et ce livre, paraissent deux livres où le biographique à la première place. la biographie.
Le deuxième volume du journal, c'est ça?
Oui, oui.
Oui, vous voulez parler du volume du journal, oui. qui vient de paraître.
Qui paraît simultanément.
Et qui paraît simultanément, qui s'appelle Spirito Peregrino, l'esprit pérégrinant ou l'esprit pèlerin, et qui est directement rattaché à la poésie. Vous savez que c'est une des vieilles traditions de notre culture occidentale, que cet esprit pèlerin, que cette inquiétude que les hommes ont eue très très tôt sur leurs rêves, sur leurs amours, c'est-à-dire sur tout ce qu'ils ne pouvaient pas rationaliser.
Mais je ne vais pas en venir tout de suite à ce journal. Je voulais simplement souligner qu'au même moment, vous publiez deux livres qui sont des livres qu'on peut dire biographiques.
D'une certaine façon, j'ai l'impression que vous voulez nettement me faire dire que Rime est un livre biographique.
Oui.
Non.
Enfin, un texte un peu analytique quand même.
C'est un texte analytique, mais je ne pense pas qu'il me concerne plus particulièrement.
Il y a cette phrase que j'ai retenue. Pour dire ce qu'il en est de ces petits écrits, il me faudrait dire le sommeil de ma vie.
Oui. Mais vous savez, vous allez me rendre tout à fait paranoïaque. Là, vous me faites apparaître comme tout à fait paranoïaque. Le sommeil de la vie d'un écrivain, c'est le sommeil de la vie de l'univers.
Mais vous dites aussi, un écrivain écrit, et vous dites aussi, j'écris avec des riens.
Oui. Non, si vous voulez...
Il faut parler dans un micro. On vous entend mieux comme
ah,
ça.
Ah oui, alors voilà. Je disais des riens qui sont L, Y et O.
Non, si vous voulez, je pense qu'une expérience poétique s'enracine toujours sur une expérience individuelle, mais qu'elle ne devient réellement expérience poétique qu'à partir du moment où elle se révèle capable de transcender cette expérience individuelle. Plus elle la transcende, plus elle est forte et plus elle est grande. Là, évidemment, j'ai retrouvé dans les poèmes de Rime une expérience individuelle demandera quand même un très 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 gros travail. Je veux dire, retrouver ma biographie dans les poèmes de Rime, ça demandera un certain nombre de volumes de travail assez considérable. Mais je pense que par contre, on peut y retrouver des expériences une expérience individuelle qu'on pourrait dire tout à fait collective, c'est-à-dire ce type de rapport à la mère et ce type de rapport à l'inceste que évidemment tout Tom partage.
Bon, moi, je pensais ça. C'est-à-dire qu'il pose des questions qui se posent à l'humaine nature et qui sont à la fois très singulières dans leur façon de se poser et qui sont effectivement très collectives.
Alors, Marcelin Plénès sont des poèmes d'amour, Rime ?
Mais absolument, ce sont des poèmes d'amour. Ce sont des poèmes d'amour, encore une fois, adressés... inspiré par une femme qui est une mère. Et vous voyez le caractère en est marqué dès le premier poème, n'est-ce pas? À elle, à la mère, nourriture, cadeau, art. Et à elle peut aussi bien être écrit avec deux lettres A et L. C'est-à-dire que dans cette tentative de reprendre le biographique et de lui donner un caractère qui ne soit pas strictement individuel, le recueil de poésie va jusqu'à traiter de la lettre elle-même et du fait que c'est dans la lettre elle-même et dans un certain type de rapport à la lettre en tant que telle que ces caractéristiques que la caractéristique de cet interdit fondamental qu'est l'inceste trouve sa place.
Une dernière remarque. Tout à l'heure, je remarquais la réapparition de la notion de vérité. Et dans la préface à ce livre, j'ai vu réapparaître une autre notion, celle d'inspiration poétique. Vous parlez d'inspiration poétique.
Oui. Oui, alors, si vous voulez, je vois très bien où vous m'entraînez. Eh bien, disons, si vous voulez, que les trois premiers livres et mon attitude vis-à-vis des trois premiers livres a été une attitude que je dirais polémique à l'intérieur du contexte culturel français, où la poésie ne trouvait pas la place qu'elle a aujourd'hui. La poésie contemporaine ne trouvait pas la place qu'elle a aujourd'hui, et j'avais alors une attitude polémique assez forte contre ce qu'on appelait la poésie traditionnelle, contre ce qu'on appelait le poète, l'inspiration et tous les tics de la poésie poétique. Si je puis m'exprimer ainsi. En cela, d'ailleurs, à l'époque, j'étais assez proche des critiques qu'un poète comme Francis Ponge pouvait faire à la poésie.
Et dans votre deuxième livre, vous, quand même, vous citez René Char, je crois.
C'est dans le second. On ne peut pas dire que René Char soit un poète de la poésie poétisante, n'est-ce pas? Les alexandrins dans l'œuvre de René Char sont assez rares.
Oui.
René Char est un...
Il y a quand même de belles images poétiques.
Il y a parfois, il y a aussi de belles images poétiques dans Rime.
Oui. Plus violente.
Comment ?
Plus violente.
Mais non, pas du tout. Je dis, tu viens dans mes jeudis pour qu'on s'amuse ensemble à rouler dans l'éternité. Je trouve pas ça très violent. Je trouve ça très très poétique. C'est même une chanson. Je vois très bien les petites.
Vous avez l'air de vous amuser en le disant.
En sautant à la corde.
Vous nous lisez quelques pages.
Oui,
de...
bien sûr. Je vais.
Vous avez dit tout à l'heure qu'en vous entendant lire le.
Jacqueline de Sèvres.
Oui, je regardais en même temps le texte que lisait Marcelin Plenet et j'étais frappée par ce qu'il venait de dire, de la référence de ce qu'il a dit de Baudelaire et de Mallarmé. Parce que le texte sur la page se présente avec une mise en place et avec type d'espacement et de blanc qui m'a posé précisément à l'idée d'en faire un peu la lecture à haute voix, quelques questions. Or, j'ai entendu que Marcelin Plenet le résout en le lisant presque en continuité. Ce qui fait que j'avais un peu envie tout à l'heure de lui poser...
Ce chat n'est vraiment pas possible.
La question de la fonction un peu, de la mise en place des blancs et du fait que dans sa traversée, dans la version qu'il en donne, dans la lecture qu'il en fait, il le traverse en essayant de recréer cette continuité qu'il a justement cassée quand il l'a fait imprimer.
Les blancs sur la plage sont des blancs de ponctuation. Ce ne sont pas des blancs de présence, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des blancs. Ce n'est pas du tout la mise en page mallarméenne. C'est une mise en page de ponctuation. C'est-à-dire le blanc implique un silence ou une accentuation, mais pas du tout une présence ou un vide.
Par exemple, n'est-ce pas? Il est très fréquent que sa blancheur défend. Il y a par exemple, j'écris dans ton bassin, Jean. Dit plus long, plus idoine, plus adéquate, langue en palais et tête en con, vous le lisez en continuité. Et là, c'est. Moi, j'avais tendance à le lire. J'écris dans ton bassin, j'en dis plus long, plus idoine, plus adéquate, langue en palais et tête en con. C'est-à-dire. Et comme vous avez fait cette référence à la lettre, c'est-à-dire à ce travail très, très, très fouillé qui va autour des consonnes et des voyelles, moi, je l'entendais un peu plus comme une sorte de chute assez goutte à goutte. Et j'ai été frappée tout à l'heure de vous le voir lire quasi horizontalement.
Ce qui serait bien, Marcel Plenet, c'est que vous lisiez encore. Oui.
Non, mais
Henri Nathan.
Je remarque seulement aussi que l'emplacement n'est pas seulement, c'est une question évidemment, mais j'ai aussi l'impression que ce n'est pas seulement une ponctuation, ce n'est pas le coup de dé. Non. Mais c'est aussi un emplacement un peu citationnel. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas des citations, ce n'est pas besoin d'être des citations pour évoquer un peu la typographie des citations. Mm-hmm. Donc, ça, c'est en continuité avec les parties, par exemple, de stances qui sont véritablement des citations, donc toujours placées.
L'emplacement est censé mettre en évidence, lorsque je veux dire ponctuation, je devrais dire aussi accentuation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsque vous dites citationnel, je l'entends comme accentuation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'emplacement doit mettre en évidence à la fois la ponctuation et l'accentuation du texte.
Marcela Plenet, vous nous donnez un exemple?
Oui, je vais commencer par lire un des poèmes qui s'appelle La gloire du ciel. Si elle joue nue, s'ajoute au nu. C'est pour lui, c'est qu'il veut qu'elle le montre et qu'elle le montre nu. Elle a pas, elle a pas. Je l'ai, je ne sais pas, je sais. Elle dit c'est Dieu, et si je dis, je la regarde comme un pas qui dit « Tu vois Dieu et ta mère, si elle joue nu pour toi, si elle joue nu avec mon frère, avec, elle est mon frère, avec mon frère elle l'a, il a sa mère, il a ma mère l'a, nu, c'est le là qu'elle montre, le là pas qu'elle joue là, dans l'aine, dans la scène de l'amour et de l'aine, où sème à dire, sème douleur amère. Goodbye, my dear, mon fils amer. Is argumentamon to this. Nous nous trouvons dans ce rien-là, penché sur toi, penché sur rien. Elle l'aime. Là, elle aime. Pour mon semblable, elle est sa lettre, son A de trop, mon A de moins, mon A, mon os. Rivière sans elle, est-ce rivière sans eau? Atome, à toi, je la montre et la vois. Viens dans mon île, Viens dans mon aile, viens dans ma bouche, viens dans ma loi, mon caressant, mon peuplier, mes rondinets, mon hirondelle. Ciel sur les reins et sur les toits, sur l'étoilé. Si elle te montre, si tu l'as pris, ivresse sainte, mère du Fils qui êtes au ciel, ce que j'y suis enceinte, très honorable, très honorée, je me vois obligé de vous dire qu'il n'est pas possible de prendre sur moi le sentiment qui exige ce que vous comprenez, c'est signé. Elle aussi veut être mon frère, mon fils, elle a rêvé, dit-elle, femme de Dieu, mère de Dieu, nom de Dieu. Si elle joue nue, mère des nus, parce que j'écris le nom de Dieu, nous déjeunons. Elle raconte qu'elle a fait ce rêve d'un fils nu et qu'il écrit pour elle et pense. Je pense à elle, je pense à toi. Elle vient vers moi parce que j'écris le nom de Dieu, là où j'écris le là. Mère des rires, derrière l'océan brumeux, je rêve, nous mangeons. J'écris le lieu, derrière l'océan, la mère, mère des fils. Père les rosées, lumière des ans. Elle me dit tout dans les yeux, elle me regarde du tout. Il est né, le divin enfant, dans la harde de son du tout. Tu viens coucher, de lui elle me tient, j'entends cheveux, fourchette. Viens dans ma fourchette pour faire semblant. J'aime en semblant le fils Dieu, frère de la mère, mère des dieux, père en semblant, heurs et rebords. Jongleur, trobador, chunanonsei, londam ni vésina, si vol amor vavos ne si acclina. Filou de l'âme, montreur, semblant, tous à la femme, tous à la mère, amant aimant dans la rivière son bijou, son or, sa joue, son eau, son a, mère Marie, mère à la rive, à l'île qui simulait l'eau, à l'île, simile qui consimile et sepolto, lié ses magies. Petite agir, elle vient vers moi, elle est la femme d'un ami, son père est roi, ton père est mort, je sais, dit-elle, jouir, et je sais que jouiment, tu m'as quitté, je suis croyance, tu m'as quitté et acquitté, je suis membrance, je suis luna, il est doux comme les oiseaux qui vont au temple, je suis la truie, il est soyeux, mon ami, je suis la vierge et le temple et la vie, je suis la colonne, il est la colombe, il est mon béni dans les cieux, je suis l'espace, il est le temps, je suis la mare et il est l'eau, et d'elle parlar materno, Icou Arnaud qui pleure et va content. C'est contre lui, battu, content, c'est pour lui qu'il veut qu'elle le montre et qu'elle me veut comme je le veux, chose de là, neige et rosée, brûlant sans feu, non ripose et nous là, quand toute nue vienne vers moi, pour lui, et toute nue la nuit vers moi, et lui vers moi l'heure toute nue. Encore une fois tu confies la peur du rêve, fruit de Judée, et lui caché où est le lui. Ils n'ont pas fini de gémir, je n'ai pas fini de gémir si j'étais corps. Madonna si devoto come sere posso più. Je le gémis et rends en songe, à toi je vois ses fruits en songe. Jeune, il lutta contre son père pour cette dame alors. Comme à la mort dans son sommeil, dans son somme cueillant, les mêmes fleurs, les mêmes herbes au même herbier, partie du même, glouton du même et de l'aimer, chantant, sentant sans qu'elle m'écoute, en l'or du temps, sans vérité, parfum du leurre, mère du ciel, travail amer, je fais, je terre, voûte du ciel, mur de l'écrit, pour le savoir sans le savoir, en vérité je dis, aimer et nier, ou litanie.
Colla la testa, una grafista fa preparar. Se entro in piazza qualche ragazzo, tengo capella, cerca menar. Tengo capella, cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se il colpo d'ordine la razza sia, chi il minuetto, chi la follia, chi la rimana farà velar, chi il minuetto farà velar, chi la follia farà velar, chi la rimana farà velar. Mentre fa campo dall'altro campo, con questa quella, uomoreggia, uomoreggia, uomoreggia. Alla mia risa domattina, d'una decina dei miei matar, alla mia risa d'una decina dei miei matar, se trovi piazza qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Alla mia risa domattina, d'una decina dei miei matar, senza più ordine la razza sia, chi minuetto, chi la follia, chi la rimanda farà menar. Alla mia risa domattina, d'una decina dei miei matar, d'una decina dei miei matar, d'una decina dei miei matar, di matar, di matar, dei miei dei, io matar.
Parfois, on s'attarde sur les entrées et il ne reste plus beaucoup de temps pour les plats de résistance. J'aurais bien aimé pourtant qu'on parle un peu de la peinture, parce que vous avez publié, Marcelin Plenet, de nombreux articles, des préfaces, des expositions, et aussi des essais sur l'art. Je rappelais les titres tout à l'heure. Il y a l'enseignement de la peinture, système de la peinture et art et littérature, trois livres qui ont paru aux éditions du Seuil. Et ici, dans ce lieu où nous sommes, chez vous, sur les murs, beaucoup de peinture. Est-ce que vous pourriez parler de ce qui se trouve sur vos murs ?
Vous savez, j'ai été amené, après avoir écrit quelques essais sur la peinture, à me transformer progressivement en critique d'art, à m'attacher à des œuvres et à en parler, et ce qui se trouve sur les murs, au fond, témoigne un peu de ce dont j'ai parlé. Je ne vais pas parler de tout ce qui se trouve ici. Disons que ça se trouve entre Matisse et Picasso et Raquel et Pierre Nivolet qui sont ici présents, qui devraient peut-être parler de la peinture, dans la mesure où l'un et l'autre d'ailleurs sont liés, l'un et l'autre sont très liés à la poésie. Raquel a travaillé sur de nombreux livres de poètes, et Pierre Nivolet écrit lui-même des poèmes dont il va publier un petit recueil très prochainement. Donc peut-être on pourrait les interviewer l'un et l'autre sur le rapport peinture et poésie.
Ils ont un autre point commun, tous les deux, c'est de ne pas être très bavard.
Oui, mais Raquel doit être plus bavarde.
Non, vas-y.
Tu commences, Raquel.
Non, moi je viens de faire un livre avec Marcelin qui m'a vraiment fait avancer de je ne sais pas combien de bons dans ma peinture. Je crois que j'ai mis presque un an à faire ce livre.
Et je crois qu'il faut dire que Raquel fait de très très grands tableaux.
Ah bon ?
Elle travaille sur des livres et elle fait de très très grands tableaux qui peuvent faire 3 mètres par 2 mètres de haut, qui sont des tableaux de couleurs très sourdes. Et où, évidemment, la constitution du tableau est déterminée par cette profondeur sombre de la couleur.
Oui. Bon, alors parlons un peu de ta peinture.
Il y a peut-être une question qu'on pourrait poser à ces deux peintres. Est-ce que vous lisez les écrits théoriques de Marcelin Plénet ? Est-ce que vous êtes influencé par eux ?
Écoute, justement, moi, je suis absolument subjuguée par...
Je n'ai pas été présentée.
Je ne parlais pas à vous.
Avant très
bien. Je suis vraiment...
Je lis les écrits théoriques, mais je ne sais pas quelle influence ça peut avoir sur ma peinture. Sans doute comme tout ce que je peux lire ou tout ce que je peux voir, mais j'ai beaucoup de difficulté à parler de la peinture parce que c'est visuel et la radio, c'est plutôt l'oreille qui...
Oui, et par exemple, dans les écrits de Marcelin Plénet, à nous en tenir au titre, il y a quand même deux mots dans les titres de ces livres qui retiennent l'attention. C'est le mot enseignement et le mot système aussi. Comment les recevez-vous, ces mots ?
Ah.
Je crois qu'il faut quand même souligner que système est pris de façon tout à fait négative, dans la préface au livre, et que enseignement renvoie à un très très vieux livre chinois. C'est un titre emprunté à un très très vieux livre chinois qui s'appelle L'enseignement de la peinture du jardin grand comme un grain de moutarde. N'est-ce pas ? Oui. C'est une façon tout à fait poétique.
Parce que moi,
je pense que si je reprends le titre Enseignement de la peinture, si j'en crois les conversations que je peux avoir avec Marcelin Plénet et l'enseignement qu'il peut y avoir dans ces conversations, c'est au-delà du théorique, en fait, puisque la peinture, je la pratique d'une certaine façon, et ce que j'en entends dans le discours, c'est peut-être quelque chose comme une raison, en fin de compte. C'est... Ah, là, je suis coincé.
Non, c'est très, très, très étonnant, parce que aussi bien Raquel que Pierre Nivolet ont un rapport, je dirais peut-être même au théorique, n'est-ce pas, qui est un rapport qui passe par le poétique, ce qui est très, très rare chez les peintres, extrêmement rare. Il est très rare de rencontrer un peintre qui lise de la poésie ou un peintre qui en écrit. Il y a quelques exemples, mais c'est très, très, très rare. Et le rapport qu'ils ont l'un et l'autre, et leur œuvre, à mon avis, de façon complètement différente, parce qu'ils sont réunis ici ce soir, parce que ce sont deux très, très bons amis, mais pas du tout parce que leur œuvre se ressemble.
ressemblent, ce sont deux œuvres aussi dissemblables que possible, n'est-ce pas? Mais de part et d'autre, et de façon très très différenciée, ils ont l'un et l'autre un rapport justement, non pas à un langage explicatif, à un langage savant, mais vraiment au langage poétique. Et je pense que, moi, c'est une chose qui m'intéresse énormément dans la peinture, et dans la peinture de ces deux artistes précisément, c'est précisément ce dont on ne parle plus depuis très très longtemps dans la peinture, c'est-à-dire c'est de son rapport au poétique.
Il y a une dernière question sur la peinture que j'aimerais quand même vous poser à vous, Marcelin Plenet. Est-ce que aujourd'hui, il existe encore une avant-garde en peinture ?
Je crois qu'aujourd'hui, il n'existe plus d'avant-garde en quoi que ce soit et que c'est une bonne chose.
Alors, une bonne chose aussi, et même une excellente chose, c'est la publication de votre journal. On avait déjà vu l'an dernier la publication chez Hachette POL du journal de votre voyage en Chine, un manuscrit qui avait été refusé par les éditions du Seuil, je crois qu'il faut le dire, votre éditeur habituel. Et puis, cette année, Paul Tchaïkovski-Laurence a décidé désormais de publier chaque année un volume de votre journal. Le premier qui paraît, sous le titre, toujours sous le sous-titre Chronique du journal ordinaire, c'est le journal de l'année 79. Alors pourquoi commencer par l'année 79 ?
Vous savez, je tiens mon journal depuis, disons que je conserve des extraits de mon journal depuis à peu près 15 ans. Il fallait choisir une année. J'ai choisi l'année qui précédait la remise du manuscrit. N'est-ce pas ? Donc j'ai remis le manuscrit à Paul en 1980. C'était donc le journal de l'année 79. En 82 va paraître le journal de l'année 80, puisque Paul s'est engagé à publier chaque année un tome de ce journal.
Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce journal ? Des états d'âme ?
On y trouve aussi des états d'âme, notamment en ce qui concerne les éditeurs. Paul n'y est pas impliqué parce que c'est un des rares éditeurs que j'ai rencontré et où j'ai eu l'impression qu'il lisait les livres qu'il publiait, ce qui devient de plus en plus rare à notre époque. Les éditeurs publient les livres au poids, mais pas pour ce qu'il y a à l'intérieur, notamment des états d'âme, donc en ce qui concerne les éditeurs, mais on y trouve aussi, je ne sais pas, des traces de mes lectures, des traces des voyages que je peux faire, des traces des tableaux que je peux voir, des traces des questions que je peux me poser, et puis disons qu'on y trouve ce qu'on trouve, je suppose, chez chaque écrivain lorsqu'il s'attendrit un peu, eh bien on y trouve des vérités sur la vie et la mort.
Des paysages aussi ?
Oui, ça fait partie de ces vérités sur la vie et la mort.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est une lecture existentielle des événements de la vie ordinaire ?
Non, pas vraiment. C'est le journal d'un écrivain, n'est-ce pas ? Je crois qu'il faut bien spécifier que c'est le journal d'un écrivain. Donc, si vous voulez, c'est le quotidien d'un écrivain. Ça ne serait pas le quotidien d'un peintre. Ça ne serait pas le quotidien d'un musicien. C'est le quotidien d'un écrivain. C'est-à-dire, c'est le quotidien de quelqu'un au fond qui, et je crois que Rime en témoigne là de façon poétique explicite, c'est le quotidien de quelqu'un qui s'attache et qui vit de la lettre.
Jacqueline Lecèvre.
Oui, c'est-à-dire que vous avez pris occasion de ce deuxième journal pour justement souligner dans votre préface ce qu'avait de particulier cette forme du journal que tient un écrivain. Et je voudrais que vous rappeliez cette très belle chose, cette très belle citation de Goethe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire cette forme qui, en vivant, que rien ne peut venir casser cette forme qui, en vivant, se développe et qui se signe.
Oui,
n'est pas exact.
Non. Mais... Goethe parle de l'écrit comme de la forme signée qui, en vivant, se développe. Et je pense que le journal d'un écrivain, eh bien, c'est le journal précisément de cette forme signée, de cette forme ambiguë, folle, de cette anomalie qu'est la vie signée et qui se développe de la vie de l'homme qui la porte.
Oui, mais alors Marcelin Plenet, en prenant comme ça des risques, en vous exposant, est-ce que vous auriez le sentiment de ne pas vous exposer assez dans vos autres livres, ou y aurait-il quelque chose que vos livres ne diraient pas et que vous voudriez rendre public ?
Pas du tout, pas du tout. Le journal, d'abord, si vous voulez, c'est une façon de me garantir que c'est moi qui écrirai ma propre histoire, que ce ne sont pas les autres qui l'écriront. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, le journal, si vous voulez, c'est aussi une façon de servir de, comment dire, de préparation à l'œuvre proprement de fiction, n'est-ce pas? Ça peut aider, pour moi, le journal doit aider considérablement le lecteur à aborder l'œuvre de fiction elle-même et à la comprendre dans sa modernité et dans sa contemporanéité.
Je rappelle le titre Spirito Peregrino, donc qui est sous-titré Chronique du journal ordinaire chez Hachette dans la collection POL. Devine qui vient dîner ce soir chez Marcelin Plenet avec Jacqueline Lecèvre, Henri Nathan, Raquel, Anne-Marie Houdbine et Pierre Nivollet. Nuit magnétique, Christophe Mongin, François Léonard, Bruno Sourcy, Claude Royer-Journoux qui n'a pas dit grand-chose parce qu'il avait la bouche pleine, et Alain Weinstein.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 avril 1981.
Among the stars of love, you shine brighter than all my all-in-one. And for you, I count the hours, seconds, and heartbeats, because I know I want to spend the rest of my life only with you. Love. Kisses, synchronicity, timeless, and gaps. You are the one, you are my only one. And for you, I will write endless melodies of love, because I need someone to harmonize with me. Of all the stars.